Vous êtes bien sûr Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. La croissance reprend dans les territoires palestiniens, mais les finances restent très précaires. C'est ce qu'indique la Banque mondiale ce mardi. Gros plan dans votre journal sur l'aide apportée aux Palestiniens de Cisjordanie occupée et de Gaza, avec la chef de mission de Médecins sans frontières dans les territoires palestiniens. Linda Gaouaou sera l'une de nos invitées. Un mouvement de protestation en Tunisie. Quelques centaines de jeunes gens de la ville d'Aghareb, près de Sfax, sont descendus hier soir dans la rue. Des affrontements entre policiers et manifestants ont fait plusieurs blessés. L'Algérie accueillera le prochain sommet arabe en mars prochain. Une annonce du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Les multiples pénuries au Liban. Le pays manque notamment de médicaments et en particulier d'insuline, un produit indispensable aux personnes diabétiques. Basée en France, la présidente de l'association Patrimoine Ethnologique, Jinan Mileli, lance une campagne de collecte de médicaments destinés aux personnes diabétiques au Liban. Nous l'écouterons. Nouvelle allocation du président français ce soir à 20h, une intervention dans un contexte de hausse des cas de Covid-19. L'invité de Pluriel à 19h et 23h sera Corinne Narasiguin, secrétaire nationale à la coordination numéro 2 du Parti Socialiste. Soutien à Anne Hidalgo, elle évoquera les enjeux de la présidentielle à venir et notamment le pouvoir d'achat, extrait dans votre édition. Après la guerre de Gaza de mai et le dernier confinement, l'économie palestinienne donne des signes de reprise, mais elle reste confrontée à des tendances lourdes qui plombent l'emploi et les finances publiques très précaires. Voilà ce qu'indique aujourd'hui la Banque mondiale dans un nouveau rapport. Gros plan sur l'aide apportée aux Palestiniens de Cisjordanie occupée et de Gaza, notamment vis-à-vis de la santé mentale, avec la chef de mission de Médecins sans frontières dans les territoires palestiniens. Linda Gaouaou revient tout d'abord sur la décision d'Israël de rendre officiellement illégales 6 ONG palestiniennes. MSF, qui ne fait pas partie de ces ONG visées par cette mesure, entretient avec Linda Gaouaou.
Pour nous, c'est toujours une mauvaise nouvelle d'apprendre que des organisations qui sont là, on va dire, pour apporter un support aux Palestiniens soient empêchées d'apporter ce support. Aujourd'hui, on est face à un besoin énorme de la population palestinienne en termes de support sur différents axes, que ce soit économique, social, médical, et que donc le fait de voir ces 6 organisations considérées comme organisations terroristes et qui donc vont empêcher leur action de support aux Palestiniens, ben voilà, ça peut être qu'une mauvaise nouvelle, en sachant toutefois qu'il faut bien comprendre que le besoin est important et que donc on a besoin d'organisations sur place pour aider les Palestiniens.
Et justement, vous apportez une aide humanitaire dans les territoires palestiniens. Est-ce que vous pouvez nous faire part de la situation aujourd'hui en Cisjordanie occupée ?
En Cisjordanie occupée, donc effectivement, MSF conduit des opérations dans 3 gouvernorats. On offre aujourd'hui un support en santé mentale et on a aussi apporté, on apporte toujours un support à la réponse Covid dans le gouvernorat de Naplouse. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que notre support est essentiellement axé sur le support santé mentale d'une population qui vit l'occupation très durement, puisque voilà, il y a des violences répétées, on va dire, dans les différents gouvernorats, avec des évictions, de leurs maisons, des démolitions, des différences entre Palestiniens et l'armée israélienne.
Et donc, tout cela, bien entendu, provoque des traumatismes, c'est ce que vous dites.
Oui, voilà, c'est ça. On va dire que cette violence répétée, les restrictions également de mouvement, les difficultés aussi un petit peu administratives que rencontrent les Palestiniens, bien sûr, ont pour conséquence des troubles au niveau santé mentale et on essaie d'apporter un support là-dessus. On traite essentiellement des patients qui sont victimes de ces violences, mais également des patients qui sont victimes de violences, on va dire, domestiques, mais qui sont aussi la conséquence de ce système de violence continue.
Et ce besoin de soutien psychologique, il est également présent à Gaza suite aux attaques du printemps dernier.
Il existe malheureusement depuis de nombreuses années. On va dire que la situation ne s'améliorant pas, leur quotidien ne s'améliorant pas, obligatoirement leur santé mentale ne s'améliore pas, voire se dégrade. Et tous ces épisodes de violence ne fait que rajouter déjà à la situation compliquée auxquelles les Palestiniens font face. Donc avec une difficulté économique, sociale et les différentes guerres qu'il y a entre Gaza et l'armée israélienne. Donc des événements comme mai rajoutent vraiment déjà à des traumas qui sont déjà existants de par leur quotidien, mais de par les guerres précédentes. C'est là la complexité en fait du support qu'on apporte aux Palestiniens, c'est que c'est un support sur une population, on va dire, qui dans son intégralité ont besoin de support en santé mentale, mais malheureusement on n'apporte pas de support à long terme puisque la pression, la violence est omniprésente. Malheureusement, je rajouterai juste cet élément-là, malheureusement, il y a un besoin aussi de professionnels dans ce secteur-là et il y a aussi un manque de professionnels spécialisés pour apporter ce support.
Il y a un manque d'infrastructures également, il n'y a pas d'hôpitaux spécialisés dans ces problèmes mentaux.
Ben disons qu'il y en a un seul au niveau de la Cisjordanie, donc vous pouvez imaginer qu'un seul hôpital ne peut pas répondre aux besoins de toute la population.
Lorsque vous discutez avec les Palestiniens, vous qui êtes en Cisjordanie occupée en ce moment, est-ce que vous pouvez nous faire part justement de leurs requêtes et de leurs angoisses, de ce qu'ils vous disent ?
Ce qui me marque, c'est ce que je lis également, en fait, au-delà de ce que j'entends des Palestiniens avec qui je travaille, mais c'est également tout ce que je lis et toute la fatigue face au fait qu'il n'apparaît pas de solution et que la violence persiste et continue, et voire augmente. Il y a un besoin de ce partage-là, c'est que ça fait déjà, depuis 2004 qu'on est présent pour aider les Palestiniens à vivre, on va dire, sous l'occupation, mais que depuis 2004, la situation a fait que se dégrader. Donc c'est plus, et que chaque personne que vous allez rencontrer, chaque personne ont connu ou ont vécu un événement violent dans leur vie. Voilà. Donc je pense que c'est ça qui est assez dur, c'est que personne n'est épargné.
Et il existe un sentiment d'abandon également ?
Le sentiment d'abandon a été beaucoup plus perçu avec cette pandémie. Vous imaginez bien que avec cette pandémie, au niveau international, tout le monde était préoccupé par leur propre, on va dire, challenge pour faire face à cette pandémie. Et que malheureusement, oui, il y a des choses qui ont été, je ne sais pas si je peux dire oubliées, mais voilà, il y avait d'autres sujets qui ont peut-être pris l'attention par rapport à ce qui continue à se passer en Cisjordanie et à Gaza. Parce que c'est ça qui est important, c'est que ça continue en fait. C'est pas de nouveaux événements qui se passent, mais c'est que c'est juste une occupation qui persiste et donc une situation qui se dégrade.
Avec la colonisation qui persiste et les constructions illégales qui se multiplient en Cisjordanie occupée.
C'est ce qu'on voit sur les terrains, avec plus de colonies installées en Cisjordanie. Oui.
La chef de mission de Médecins sans frontières dans les territoires palestiniens, Linda Gaouaou. L'armée israélienne a indiqué hier avoir abattu un drone du Hamas au-dessus de la zone maritime de la bande de Gaza, l'enclave soumise à un strict blocus aérien maritime et terrestre imposé par Israël. Le drone qui s'était approché de la zone maritime de Gaza a été intercepté par le bouclier antimissile. Le Conseil de sécurité de l'ONU condamne le plus fermement possible la tentative d'assassinat à laquelle a échappé dimanche le premier ministre irakien Mustafa al-Kazimi. Sa résidence a été visée par une attaque au drone piégé et dans une déclaration commune, les 15 membres du Conseil soulignent la nécessité que les auteurs, organisateurs, financiers et soutiens de ces actes de terrorisme répréhensibles rendent des comptes et soient traduits en justice. Le Premier ministre irakien est sorti indemne de cette attaque. Un mouvement de protestation en Tunisie. Quelques centaines de jeunes gens de la ville d'Agareb, près de Sfax, sont descendus hier soir dans la rue. Ils protestaient contre la décision de rouvrir la décharge d'ordures d'El Ghena dans les environs de leur localité. Des affrontements avec les forces de l'ordre ont fait plusieurs blessés. Et le ministère de l'Intérieur a publié un communiqué pour préciser que le décès d'un jeune de la ville n'avait aucun rapport avec ces affrontements. L'Algérie accueillera le prochain sommet arabe en mars prochain, une annonce du président algérien. Le sommet devait se tenir en 2020. Il avait été reporté à cause de la crise liée à la pandémie de Covid-19. Les principales questions à l'ordre du jour du sommet seront le renouvellement de l'engagement collectif arabe envers la cause palestinienne et la réaffirmation de l'engagement envers l'initiative de paix arabe. Les multiples pénuries au Liban. Le Liban qui manque notamment de médicaments et en particulier d'insuline, un produit indispensable pour les personnes diabétiques. Basée en France, la présidente de l'association patrimoine ethnologique, Jinan Mileli, lance une campagne de collecte de médicaments destinés aux personnes diabétiques au Liban.
La nouvelle campagne d'insuline de collecte que je lance sur les réseaux sociaux et auprès de mes contacts, c'est un besoin qui a été lancé récemment par le président de la Fédération internationale de diabète au Proche-Orient et Afrique du Nord, Dr. Hamad Sandid, qui m'a contacté pour collaborer avec lui dans cette collecte. Au Liban, il y a des malades de diabète qui souffrent de ce manque. Il y a une pénurie profonde et des patients risquent de tomber dans le coma, notamment des enfants en bas âge.
Et donc, vous récupérez de l'insuline en France pour l'envoyer au Liban. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider ?
Je récupère déjà dans mes anciennes collectes de médicaments, j'ai reçu beaucoup de stylos, d'AcuTouch et des produits pour des médicaments pour diabète. Et là, on va se concentrer vraiment en urgence pour récupérer toute une liste de médicaments manquants, notamment des produits qui ont besoin de respecter la chaîne du froid. Donc on est en train de lancer cette campagne auprès de laboratoires pharmaceutiques afin de pouvoir réagir vite et les acheminer rapidement par voie aérienne au Liban. En fait, en France, on sait tous qu'on a des médicaments non utilisés, on les appelle les MNU. Les individus peuvent nous être d'une utilité importante, surtout nous donner ces médicaments au lieu de les jeter ou les donner à Cyclamed. Si on peut avoir les médicaments non utilisés qui sont en leur possession, ce serait déjà une chose importante et la quantité, elle est vraiment non négligeable. Il y a aussi les infirmiers qui me donnent un grand coup de main, qui récupèrent ce genre de médicaments non utilisés et qui me les apportent. Donc il y a une large population qui peut être utile dans cet appel, dans cette nouvelle collecte, parce que ce soit au niveau des individus ou au niveau du corps médical ou au niveau des professionnels de la santé, tout ça, nous on est prêts à prendre tout leur stock ou les dons qu'ils veulent nous attribuer.
À quelle adresse peut-on envoyer ces dons ? Est-ce qu'il y a une adresse physique, un contact mail ?
Oh, il y a mon contact direct à moi personnellement, puisqu'en France, j'essaie de centraliser les dons. On a une petite plateforme entre nous qu'on a montée, mais le contact principal, c'est le mien, c'est mon téléphone, si on peut m'appeler au 06 40 53 02 85. Je peux aussi vous donner mon adresse mail. jinane.mileli avec le chiffre 1 @gmail.com. Mileli, c'est M-I-L-E-2-L-I avec le chiffre 1. Et on a déjà commencé, la campagne a été lancée il y a une semaine, on a déjà des dons. Là, on est en train de voir l'acheminement vers le Liban à travers des gens qui voyagent par avion et ou à travers la compagnie Middle East qui est et notre soutien indéfectible depuis le lancement de ces aides depuis septembre 2020. Donc je vais essayer même de contacter Air France pour voir comment par avion on peut faire tout ça. Les Libanais, c'est plus qu'une souffrance. Je ne sais plus s'il y a encore un mot qu'on peut inventer. C'est plus qu'une souffrance, c'est plus qu'une résilience. C'est un pays qui a accumulé des pénuries les unes après les autres jusqu'à atteindre le minimum, c'est-à-dire le soin. Entendre à distance qu'il y a des enfants qui tombent dans le coma ou des enfants qui meurent faute de vaccin, c'est vraiment le noir du noir là. Donc je sais pas si nous, même si on continue à aider, ce sera jamais une aide suffisante. Il faut au niveau vraiment un état d'urgence au niveau étatique. Mais il faut continuer, il faut poursuivre, en espérant qu'on verra le bout bientôt.
Jinan Mileli, présidente de l'association Patrimoine Ethnologique, elle répondait à Loïc Barrière. Nouvelle allocution du président français ce soir à 20h. Emmanuel Macron s'exprimera dans un contexte de dégradation de la situation sanitaire liée à une hausse des cas de Covid-19. Il sera question de l'administration de la dose de rappel du vaccin pour les personnes éligibles, mais aussi de la relance économique et des réformes conduites dans le pays. L'invité de Pluriel à 19h et 23h sera Corinne Narasiguin, secrétaire nationale à la coordination, numéro 2 du Parti Socialiste, soutien d'Anne Hidalgo, candidate à la présidentielle. Elle évoque les enjeux, justement, de la présidentielle et notamment le pouvoir d'achat.
Alors ça fait vraiment partie de ses premières propositions prioritaires, ces questions de pouvoir d'achat. D'abord et avant tout, la hausse des salaires, mettre sur la table non seulement bien sûr la hausse du SMIC qui relève de l'État, mais ça ne peut pas être uniquement la hausse du SMIC. Il faut que ce soit dans un cadre plus large de négociations obligatoires dans toutes les branches avec les syndicats d'augmentation des salaires. Et on sait qu'il y a de nombreux syndicats qui sont prêts à s'engager dans ce type de négociations pour avoir une augmentation générale des salaires. Et s'il y a l'appui de l'État derrière, aussi avec un volontarisme réel, c'est quelque chose qui peut se faire. Nous avons aussi l'ambition au Parti Socialiste même d'aller jusqu'à proposer, ce qui est déjà proposé par les syndicats européens depuis longtemps, de proposer une limite entre les plus hauts salaires et les plus bas salaires. Parce que aujourd'hui, on voit qu'il y a une augmentation de richesse dans le pays, mais ça profite toujours à ceux qui sont déjà en haut d'échelle. Donc les inégalités s'agrandissent. Et donc le but, c'est vraiment que tout le monde puisse profiter d'augmentation des salaires et pas uniquement déjà des plus hauts salaires. Et donc la question de la négociation salariale, c'est extrêmement important.
Corinne Narasiguin, secrétaire nationale à la coordination numéro 2 du Parti Socialiste, soutien de la candidate à la présidentielle Anne Hidalgo. Elle sera l'invitée de Pluriel à 19h et 23h. Émission présentée par Loïc Barrière. Fin de cette édition. Vous êtes bien sûr Radio Orient à 12h30, votre journal en langue arabe. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 17h30 pour votre journal en langue française. Il est 12h18. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient.